17h42 sur France Culture. C'est l'heure du son du jour et aujourd'hui du film du jour. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Salim Shaheen.
M'est avis qu'il est dans un film.
C'est l'Alain Delon afghan et notre camarade Sonia Krolund. Oui, Sonia Krolund de France Culture a filmé Salim Shaheen. Elle est avec nous ce matin. Et alors, je vais vous lire ce que l'on dit de son film. Par exemple, dans Libération, j'ai pris Libération, mais en réalité, j'aurais pu prendre Le Figaro ou Le Monde d'hier soir. Génie autoproclamé de la série Z, le grand Manitou du cinéma afghan fauché tient la vedette dans le passionnant documentaire. Documentaire de Sonia Krolund. Il y a marqué passionnant documentaire. Ça n'est pas du copinage, c'est parce qu'on a vraiment aimé ce film. En voici un extrait. Un extrait de Nothing Good, le film de Sonia Krolund. On va parler de l'Afghanistan heureuse, car elle existe, elle est dans ce film, de l'Afghanistan qui veut vivre envers et malgré tout, de l'Afghanistan terrible aussi, de celle qui est en guerre avec vous, Karim Pakzad. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS et vous nous raconterez ce qui se déroule dans ce pays qui est dans une situation plus terrible encore que celle qu'elle était il y a une dizaine d'années. Vous nous expliquerez comment cela est possible. Mais avant tout, Sonia Krolund, présentez-nous donc Salim Shaheen. Qui est-il? Qui est cet Alain Delon? Alors je le précise, il ne ressemble pas tout à fait à Alain Delon. On arrive à distinguer les deux noms.
Oui, oui. Et d'ailleurs, il parle de Ulan Doulan. Donc on a mis un certain temps à comprendre qu'il se comparait volontiers à Alain Delon.
Oui,
donc,
la modestie n'est pas son fort.
La modestie n'est pas son fort. C'est une sorte d'ogre. C'est un personnage très rabelaisien qui a fait donc 110 films sans savoir ni lire ni écrire, mais bien entendu en prétendant qu'il sait lire et écrire, et qui traverse l'Afghanistan avec une passion complètement démesurée pour le cinéma, qui est, depuis qu'il est petit, il va au cinéma contre vents et marées. Il se fait frapper parce que c'est quand même encore considéré comme un divertissement de mauvais genre. Enfin, les cinémas sont des endroits qui sont mal fréquentés. Faire du cinéma, danser, chanter, etc., c'est vraiment une chose qu'on ne fait pas dans les familles traditionnelles. Et donc voilà cet homme qui, avec sa bande de bras cassés autour de lui, un sourd-muet, un nain, un gars qui est un peu borgne, tous ses copains d'enfance, continue à faire comme dans la cour de récréation, continue à jouer. On aurait dit qu'on ferait des films, on continue, on fait des films et on en fait 110.
Le film, votre film s'appelle Nothing Good, c'est un hommage rendu aux moyens énormes du cinéma afghan.
Et donc il dit, alors ça il le répète à l'envi, ici c'est pas Bollywood, c'est pas Hollywood, c'est Nothing Good, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Il a une sorte de cri de guerre et son cri c'est sound, light, action, sauf qu'il n'y a pas de sound, pas de light et beaucoup d'action, des coups de poing. Voilà.
Oui, des tirs, des hélicoptères, des choses extrêmement...
De l'hémoglobine, un globe oculaire qui va pendouiller, un bras arraché...
Si vous avez rencontré cet homme, c'est parce que vous connaissez très bien l'Afghanistan. 20 voyages en Afghanistan ?
Oui, enfin, j'ai voyagé à peu près tous les ans depuis les années 2000. Je connais pas très bien, enfin, je connais un peu la société. J'ai pas de vue comme Monsieur Pakzad sur la géopolitique ni sur la politique en général, mais je connais un peu la vie des gens. C'est quand même mon job de connaître la vie des gens. Je m'y suis intéressée.
Le paradoxe, c'est que l'Afghanistan, hélas, très souvent dans l'actualité, Karim Pakzad, elle est dans l'actualité par exemple le 31 mai dernier où la capitale Kaboul subissait avec plus de 150 morts son attaque la plus meurtrière depuis le départ des talibans en 2001. Il n'est pas inutile de dire à quel point l'Afghanistan est un pays qui a rarement connu le répit, c'est un état relativement récent créé au XVIIIe siècle. Comment expliquer que ce pays qui est au carrefour de l'Asie centrale soit à ce point en proie à des convulsions?
Avant de répondre directement à votre question, j'ajoute un tout petit point pour dire que dans la société afghane, une société en guerre, une société blessée, il y a quand même des initiatives de la part des gens, des initiatives privées dans le domaine de l'art, de cinéma, mm-hmm. de théâtre, de danse, de sport, y compris dans des zones extrêmement reculées comme Bamiyan, où pour la première fois dans l'histoire de l'Afghanistan, les filles commencent à faire des skis. Des skis qui n'existaient pas en Afghanistan.
On voit de la neige dans le film de Sonia
voilà.
Kroloun.
Donc, il existe.
Et on sait qu'il y a des montagnes en Afghanistan.
Il faut du ski sans remonte-pente. Hein,
Il existe.
C'est du ski alpin.
C'est du ski, oui.
Mais que malheureusement, c'est en marge. Hein, qui en marge, qui ne touche pas une grande partie de la population. Et ça, c'est dû à la jeunesse, au dynamisme de la jeunesse. Je reviens sur votre question. Oui, parfois on dit que le malheur de l'Afghanistan, c'est sa géographie, ou sa position géographique. C'est un pays, un tout petit pays dans la région par rapport aux puissances que l'entourent, un pays pauvre. Même s'il a un sous-sol très riche, inexploité, et qui restera inexploité pendant longtemps, parce que pour cela, il faut la sécurité, et la sécurité, ce n'est pas pour demain. Depuis l'Antiquité, l'Afghanistan a été le carrefour des invasions, aussi bien de nord, hein, des Ouzbeks, des Mongols, de l'Est, des Hindous, de l'Ouest. Vous savez, Napoléon Bonaparte est parti pour conquérir l'Inde, pour rivaliser avec l'Empire britannique par terre. Mais malheureusement, il a resté bloqué en Égypte, il est retourné, il n'a pas avancé. Voilà, et puis, depuis la naissance de l'Afghanistan actuelle.
Mmh. Hein, donc, 1747 pour
1747,
la naissance du pays.
Depuis, ce pays n'a jamais connu la paix. C'est le rare roi qui n'est pas tué pendant sa fonction. C'est l'ex-roi qui est mort il y a quelque temps, hein, qui était réfugié à l'étranger, qui est retourné en Afghanistan. Tous les rois ont été tués pendant son exercice. Et c'est la raison pour laquelle les Afghans portent également pour les présidents qui connaissent les mêmes sorts. C'est un pays extrêmement violent, hein, dans laquelle la violence...
Quand vous dites un pays violent, ça veut dire que les rapports humains... Sonia Kroloun, les rapports humains sont violents dans ce que vous avez vu de la société afghane?
Parfois, ils sont violents, ils peuvent être extrêmement cruels, mais aussi, ils ont leur revers, ils peuvent être très, très joyeux. C'est un pays où j'ai remarqué, c'est une des choses qui rend la vie très intense. On peut passer vraiment des rires aux larmes et de la violence incroyable à une grosse plaisanterie qui va complètement déminer une situation. Mais il y a une métaphore qu'on utilise souvent pour parler de l'Afghanistan, qui est celle de la chèvre du Bouskashi. Vous savez, le Bouskashi, c'est un jeu qu'on joue en Afghanistan. Il y en a un extrait d'une partie de Bouskashi dans mon film, où des cavaliers comme ceux de Kessel se disputent le cadavre d'une chèvre. Et en fait, on dit que l'Afghanistan est la chèvre du Bouskashi. Il y a tous ces pays autour. Chacun essaie de tirer une patte de la chèvre du Bouskashi.
Et donc, lorsqu'on prend les pays autour et les pays pas si environnants que cela, je pense à l'Angleterre, la plupart des pays qui ont envahi l'Afghanistan se sont cassés les dents sur l'Afghanistan et n'ont pas réussi à la maîtriser. D'ailleurs, lorsqu'en 2001, décision a été prise de faire la guerre là-bas, les historiens ont tenté de rappeler en vain que personne n'avait réussi à pacifier ce pays. Pourquoi?
Absolument. Mon ami Michael Barry, qui est passé chez vous il y a longtemps, mais n'est plus en France, a écrit un livre en français, parce qu'on a travaillé ensemble sur l'Afghanistan pendant la guerre contre l'Union soviétique. Dans ce livre est titré « Le pays d'insolence ». Et il trace l'histoire de deux derniers siècles en Afghanistan. C'est vrai. Aucune puissance, ni la puissance tsariste, ni l'Inde britannique, tout au long du 18e et 19e siècle, ensuite la grande Union soviétique, dans les années 80, n'ont jamais réussi. Et puis voilà, maintenant, on est en présence de la présence américaine, n'a jamais réussi à occuper durablement.
Mais alors, on se pose la question, pourquoi en 1979, l'Union soviétique a-t-elle décidé d'envahir l'Afghanistan ? Qu'y avait-il de si important là-bas pour courir de tels risques ?
Gorbatchev, par la suite, a répondu. Il a dit que c'est une grande erreur d'avoir envahi l'Afghanistan. Mais pourquoi les ont fait ? Vous savez, on est dans les années 70. C'est la grande année de rivalité, ou si vous voulez, c'est la grande tension autour de ce qu'on appelait la détente. La rivalité entre l'Union soviétique et les Américains ou les pays occidentaux est à son paroxysme dans les années 70. Or, dans les années 70, Brejnev, le vieux Brejnev qui dirigeait l'Union soviétique, il pensait qu'après un coup d'état sanglant du parti communiste afghan réussi, il pensait que le temps est arrivé de occuper l'Afghanistan et d'avoir le fameux accès aux eaux chaudes de l'océan Indien. Ça, c'était une motivation. Et lorsque ce gouvernement communiste a eu des difficultés, il a fait appel à l'Union soviétique qui a répondu pour sauver. Mais malheureusement, ça a tourné autrement.
C'est la première invasion. La seconde décision marquante dans l'histoire contemporaine de l'Afghanistan, c'est bien sûr la décision américaine après le 11 septembre 2001 d'intervenir, alors même que l'on savait que les terroristes n'étaient pas afghans. Pourquoi avoir pris cette décision ?
Moi, je pense que ça aussi une grande erreur. Moi, je pense que George Bush intervenant en Afghanistan contre les talibans, alors que quelques mois après, il refusait d'aider les résistants. À titre d'exemple, Mahmoud Massoud qui luttait efficacement contre les mêmes talibans, contre les mêmes Al-Qaïda, était motivé uniquement par le sentiment de vengeance. Les attentats terroristes de Washington et de New York a quand même créé à l'époque des émotions considérables chez les Américains. Et George Bush, qui déjà dans la tête avait une notion aventuriste de changer la figure de Proche-Orient par des actions militaires, il a pensé que c'est le lieu le plus facile d'envahir et de renverser le régime de Taliban et de commencer à installer un état, un building, etc. Et c'est ça qui a motivé, sans aucune stratégie, sans aucun allié.
Oui, c'est ce qui est raconté dans un article paru dans Le Monde il y a deux jours, un article de Rémi Ourdan, où on a des soldats américains qui expliquent que lorsqu'ils sont arrivés, ils ignoraient tout de l'Afghanistan, ils ne savaient pas que les combats se déroulaient avec des chevaux, que le pays était doté d'une géographie montagneuse. On avait vraiment l'impression d'un débarquement, mais au sens propre du terme. Comment est-ce possible?
Un point encore, s'il vous plaît. Un point encore. Vous savez, aujourd'hui, l'ancien chef des Mujahideen, ceux qui, à l'époque, luttaient contre l'Union soviétique et ensuite contre les talibans, et puis qui sont devenus alliés des Américains. Mais comment les Américains ont réussi à les convaincre de les aider? C'est parce qu'ils sont allés avec des cartons pleins de dollars chez chaque chef de guerre pour les convaincre d'aider les Américains. Et ça a été filmé, ça a été diffusé. Et c'est pour ça que l'une des raisons que ces chefs de guerre, anciens chefs de guerre, sont extrêmement riches aujourd'hui, ce n'est pas seulement la corruption, c'est parce qu'ils ont obtenu des millions et millions de dollars, c'est-à-dire ils ont été achetés par les Américains pour les aider dans sa conquête en Afghanistan.
Il faut parler de ces cartons remplis de dollars pour fixer un peu les idées. L'Afghanistan, c'est un pays de 32 millions d'habitants. Il y a un PIB de 20 milliards de dollars. C'est très faible. Ça veut dire que c'est un PIB par habitant d'environ 1000 dollars. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et sur ce petit pays par son économie, on a déversé des milliards de dollars. Je donne un exemple. Les quatre dernières années, l'Amérique a investi 20 milliards de dollars, c'est-à-dire donc 25% du PIB par an. On ne voit pas du tout où est cet argent. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est à Dubaï? Qu'en a-t-il
Et ça, c'est uniquement l'aide civile à la reconstruction. Parce qu'en même temps, l'OTAN verse 5 milliards de dollars uniquement pour l'armée afghane.
Où est l'argent, Karim Pakzad?
Bah, évidemment, il y a quelques années, en 2002, lorsque la dimension de la corruption a été apparue énorme, les Américains ont décidé de mettre en place une inspection générale de la reconstruction de l'Afghanistan qu'on appelle SIGAR. Et SIGAR publie chaque année son rapport. Et dans ce rapport, pardonnez-moi si vous voulez qu'on revienne tout à l'heure, dans ce rapport, il donne des exemples de la corruption. Des centaines de milliers que SIGAR a récupérés. Une centaine des Américains qui a été impliqués dans la corruption, qui a été arrêté aux États-Unis, qui a été traduit devant la justice. Des Afghans qui ont été arrêtés. Et les chiffres que SIGAR donne de la détournement de l'argent destiné au public, c'est effarant. Donc la corruption... Écoutez, d'après les organisations internationales, les trois pays les plus corrompus dans le monde sont l'Afghanistan, la Somalie et la Corée du Nord.
Sonia Krolund,
oui, je me souviens, je peux vous donner juste deux tout petits exemples. Je me souviens d'une année où j'étais à Kaboul pour le Nouvel An. Et en fait, on cherchait à faire des interviews, à rencontrer des gens. Il n'y avait aucun membre du gouvernement qui était à Kaboul. Ils étaient tous partis fêter le Nouvel An à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils ont tous des résidences à Dubaï. Et le deuxième exemple qui m'a vraiment frappé la dernière fois que j'y suis allée, c'est qu'en fait, les Américains et les Anglais refusent de faire le trajet entre l'aéroport et les ambassades en voiture, parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux, même en voiture blindée, etc. Donc, ils débarquent à l'aéroport à Kaboul, ils prennent un hélicoptère et l'hélicoptère les dépose directement dans leurs ambassades et chaque trajet coûte 2000 dollars.
Et je rajoute, parce que, pourquoi on pense ça? Parce que les membres, les familles de ces dirigeants afghans, aucun d'entre eux ne se trouve pas en Afghanistan. Il se trouve à l'étranger, que ce soit en Turquie, que ce soit dans les Émirats, que ce soit en Inde, la famille des ministres sont tous à l'étranger.
Les gens que vous avez filmés, en tout cas, ne profitent pas de cette manne, Sonia Krolund.
Ah non, ils ne profitent pas de grand-chose, si ce n'est de leur énergie, de leur bonne humeur et de leur volonté farouche de faire du cinéma et de diffuser leurs films.
Avec une joie extrêmement communicative, on le voit lorsque vous filmez les spectateurs de ces films, ils sont tous très heureux, ils adorent le cinéma.
Oui, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Pourquoi des gens qui voient des films qui, selon nos critères, ne sont pas d'une qualité incroyable, prennent autant de plaisir? C'est la question un peu que j'essaie de poser dans ce film.
Ça dépend, parce qu'il y a aussi un amour de la nanarologie qui semble être extrêmement vivace en Afghanistan, d'après ce que vous avez filmé, Sonia Krolund. Nothing Wood, on en reparle aux environs de 8h20 avec vous, Karim Pakzad, et vous évidemment. Sonia Krolund, 8h sur France Culture.